Littérature sans frontières.
Catherine Fréchon-Toussaint, Alexandre Cayuela.
Bonjour à toutes et à tous. De la Syrie à la France, en passant par le Liban, mon invité aujourd'hui nous propose un aller et un retour entre son pays natal et son pays d'adoption. À travers l'histoire d'un jeune homme, obligé de quitter Damas pour raison de sécurité et qui, 10 ans après son installation à La Rochelle, face à l'Atlantique, est rattrapé par son passé, la mort d'un ami qui, lui, souhaitait être enterré en Syrie. Et c'est ainsi que le narrateur envisage de revenir, lui aussi, sur sa terre d'origine. Intitulé « L'Arabe qui sourit », cette fiction parue aux éditions Flammarion a elle aussi été percutée par l'actualité, puisqu'après son écriture, le régime de Bachar el-Assad est tombé, et nous en reparlerons bien entendu au cours de cet entretien. Bonjour Omar Youssef Souleymane.
Bonjour.
Après Le Petit Terroriste, Le Dernier Syrien et Une Chambre en Exil, ce quatrième roman touche au plus près une réalité dont vous rêviez, rentrer à la maison. Et à défaut de le faire ces dernières années, vous l'avez imaginé par la littérature et via un personnage qui n'est pas vous, mais avec lequel vous avez quelques points communs. Est-ce que, par exemple, vous aussi, vous avez dû fuir la Syrie où votre vie était menacée ?
Effectivement, j'ai fui la Syrie en 2012, où je me suis échappé du régime policier de Bachar el-Assad. J'ai fui au départ vers la Jordanie, d'une manière clandestine. Et en Jordanie, j'étais dans un camp pour les réfugiés syriens. Une fois sorti de ce camp, j'étais agressé par la police jordanienne. Et c'est ainsi que j'ai demandé l'asile politique en France, de l'ambassade française. Et comme ça, je suis arrivé en France. C'était le mois de mars 2012. Alors j'arrive dans un monde que je ne connaissais pas du tout. J'ignorais la langue, le système, pas d'amis, pas de famille. Et ici, je commence une nouvelle vie. J'apprends la langue française et je commence à chercher un travail, de, disons, m'intégrer ou de m'assimiler dans la société française, parce que je me suis rendu compte qu'il n'est pas possible de vivre dans l'attente, en attendant le retour un jour. Donc je me suis dit que je devais faire partir de la société actuelle de mon pays qui s'appelle la France. 10 ans plus tard, en 2022, j'obtiens la nationalité française et le premier pays où je visite, c'était le Liban. Et au Liban, j'étais sur les frontières avec la Syrie. Et c'était une image surréaliste parce que j'ai vu la Syrie, j'ai vu les montagnes, j'ai vu les fleurs de la Syrie, j'ai vu les paysages, mais je ne pouvais pas accéder, je ne pouvais pas franchir les frontières parce que j'étais recherché par la police. Et c'est à ce moment-là où l'écriture de ce roman m'est arrivée à l'esprit parce que je voulais réaliser même un retour imaginé. Parce que vous voyez, on a besoin de ce retour un jour à sa terre maternelle pour comprendre pourquoi on est parti, pour revoir le moi, M-O-I, qu'on a laissé là-bas.
Donc à partir de ce socle commun avec votre personnage, le départ, l'exil, la vie en France, vous avez donc imaginé que votre personnage, en apprenant la mort d'un de ses plus proches amis, décidait de refaire le chemin à l'envers. Et comme vous venez de nous le dire, Omar Youssef Souleymane, parce que vous ne pouviez pas le faire à cette époque, c'était votre rêve. Mais là, vous imaginez un personnage qui est parfumeur et qui a créé une fragrance qui s'appelle l'air de Damas. Qu'est-ce que vous y mettriez, vous, comme un ingrédient pour restituer cette odeur ?
Personnellement, je suis très sensible par rapport à l'odorat, oui. Contrairement au visuel, parce que j'ai perdu mon œil droit quand j'avais 3 ans. Et vous voyez, quand on perd, là j'ai un grand problème aux yeux. Et quand on a un problème dans un sens, on développe inconsciemment d'autres sens. Et le parfum, c'est le plus difficile à s'en séparer. Vous voyez. Même quand on se sépare avec une personne, quand on vit en chagrin d'amour, quand on sort de son pays d'origine, et on peut se réfugier à nouveau dans le parfum, d'un lieu ou de quelqu'un.
Alors, je vais reformuler ma question. Omar Youssef Souleymane, c'est quoi l'odeur de votre enfance ?
La fleur d'oranger. Tout simplement parce que c'est, C'était le berceau, c'était ça. Et vous voyez, l'orange est très, très présent en Syrie, très présent surtout sur la côte. Vous voyez. Et donc, on allait sur la côte en été. Ma mère, qu'on voyait rarement à cause de la divorce avec mon père, nous emmenait sur la côte et il y avait l'odeur des oranges partout. Et la dernière fois où j'ai vu ma mère, en début de 2011, avant mon départ en Syrie, elle m'a préparé un verre de jus d'orange. Et je me suis interdit de boire l'orange pendant 13 ans ici en France, parce que cela m'a fait penser, me faisait beaucoup penser à cette séparation dure. Et là, de retour en Syrie, j'ai vu ma mère après 13 ans d'absence. Et la première chose que j'ai fait, j'ai mangé beaucoup d'orange, j'ai bu beaucoup de jus d'orange.
Alors, vous allez nous raconter ça un peu plus tard. Pour l'instant, restons encore un peu avec votre roman « L'arabe qui sourit ». Et ce personnage, donc, qui se prépare à retourner en clandestinité en Syrie. Mais pour commencer, il se rend à Beyrouth, où se trouve le corps de son ami Nadji. Il faut dire en effet qu'il y a 2 millions de Syriens réfugiés au Liban et que, naturellement, les deux peuples ont beaucoup en commun. Pourtant, ces derniers temps, c'est ce qu'on croit comprendre en vous lisant Omar Youssef Souleymane, la souffrance des uns et des autres semble les diviser. C'est ce que vous avez senti sur place, une tension?
Une grande tension. C'est compliqué. En fait, oui, le régime bassiste, Hafez al-Assad, le père de Bachar al-Assad, a occupé le Liban pendant environ 20 ans. Oui. C'était pendant la guerre civile, c'était énorme. Il a torturé les Libanais, il a violé ce pays, il a traité comme sa propre ferme. C'était horrible. Cela a créé une intensité entre les Libanais et les Syriens. Et il y a aussi autre chose, c'est que le Liban, c'est un tout petit pays, vous voyez, de 4 000 habitants, si je ne me trompe pas, actuellement, face à 23 millions Syriens. Vous voyez. Il y a pas de face à face, c'est juste que c'est le régime dictatorial qui a créé ceci. De plus, la société libanaise est différente. La société libanaise, il y a presque la moitié sont des chrétiens et les autres sont des minorités, enfin, les chiites et les sunnites. Il y a certains alawites aussi. En Syrie, ce n'est pas la même société. Donc, pour toutes ces raisons, il y a une intensité. Or, il y a aussi une grande amitié. Moi, j'ai des amis libanais et Beyrouth, c'est ma ville préférée. La première ville où je suis allé, une fois j'obtiens la nationalité française, c'était Beyrouth. Et là, de retour en Syrie, une des plus belles choses qui m'est arrivée, c'est que je suis passé par Beyrouth.
Alors justement, à Beyrouth, votre personnage retrouve Delia, une amie commune, elle est italienne, sicilienne même pour être précise, photographe. Elle est très attachée à cette région du monde dont vous dites pourtant que c'est un cimetière de rêves. Qu'est-ce que vous entendez par cette expression?
Je ne parle pas seulement de Beyrouth, mais je parle de Proche-Orient. Effectivement, c'est un cimetière de rêves. Quand on vit dans une société qui ne respecte pas l'être humain comme individu, quand je vois les jeunes, ils attendent tout le moment de partir quelque part dans le monde. Quand je vois la violence contre les femmes, contre les enfants, quand je vois la liberté individuelle, elle est écrasée aujourd'hui, vous voyez. Et ce n'est pas nouveau, malheureusement. Effectivement, on ne peut pas réaliser ses rêves. En fait, on ne peut pas arriver à une démocratie ou à une liberté politique sans réaliser la liberté individuelle, sans réaliser le respect de l'être humain, sans que l'être humain, le citoyen, a une valeur. Une valeur dans ces pays. Et malheureusement, ce n'est pas le cas du tout.
Mais qu'est-ce qui a fait, vous, qu'un jour, Omar Youssef Souleymane, vous ayez ce regard différent sur le Proche-Orient, que d'un seul coup, vous ayez compris que la liberté n'était pas là où on l'avait située?
On est né dans cette atmosphère. C'est-à-dire, on le sentait, on le voyait, on entendait, on voyait les gens arrêtés par le régime d'Assad à cause d'un mot, à cause d'une blague, qui sont restés 5 ans ou 10 ans dans la prison. On voyait la torture dans la rue, on voyait le régime militaire, tout ça, ça sentit. Vous voyez, quand on allait, par exemple, à l'école, tous les matins, on répétait notre président pour toujours. C'était le directeur qui disait cette phrase. Nous, on devait dire notre président pour toujours. On disait le fidèle Hafez al-Assad. Oui. On a grandi dans un système. Vous voyez le roman 1984, par exemple, de George Orwell. C'est, vraiment, ça décrit pile poil la Syrie à l'époque de Hafez al-Assad et aussi à l'époque de Bachar. Donc, ce n'est pas une terre de liberté, bien sûr. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement la Syrie. Regardez, l'Irak, la Jordanie, c'est la même chose. Vous voyez, ça, il n'y a aucune différence, malheureusement.
À Beyrouth, votre roman prend une nouvelle tournure, à la fois une histoire d'amour et une histoire d'espionnage, puisque votre narrateur trouve un livre que son ami, avant de décéder, a annoté de chiffres comme un code secret, ce qui va permettre, alors je n'en dis pas trop évidemment, mais quand même de dévoiler un scandale d'État, un gigantesque trafic de drogue en Syrie, dont l'ancien dictateur et d'autres dirigeants ont profité. C'est une affaire documentée qui s'inscrit dans des faits réels, Omar Youssef Souleymane ?
Effectivement. On avait des preuves, et ça c'est mon travail comme journaliste, que le régime est impliqué dans des commerces, dans la fabrication, on appelle le Heptagone. En fait, cela a tellement augmenté à partir de l'année 2018, à la suite des censures des États-Unis, censures économiques sur le régime d'Assad. Parce qu'il voulait, rester en fait, il avait besoin d'argent tout simplement. Donc il fabriquait cette drogue qui est très très dangereuse et il la distribuait dans la région, surtout en Arabie Saoudite. Et on a arrêté des millions des pilules de Heptagone, les transférer, les envoyer dans des fruits, dans des portes, dans des chaises, dans des tas. Et figurez-vous que jusqu'à aujourd'hui, c'était marrant quand même, parce que j'ai fait cette enquête. Une fois que le régime est tombé, on découvre que tout ça, c'était réel, en fait. Et là, jusqu'à aujourd'hui, on est en train de découvrir et redécouvrir des labos de fabrication de la drogue. C'est horrible. C'est-à-dire que le pays est inondé par le Heptagone.
Donc voilà, dénoncer l'ancien régime, c'est ce que voulait faire ce personnage. Et finalement, ce régime est tombé en décembre, mais pour des raisons différentes. Nous allons en reparler avec vous, Omar Youssef Souleymane. En attendant, je vous propose une pause musicale. Alors, il y a beaucoup de choix dans les références que vous écrivez dans votre roman. Férouz, bien entendu. Il y a également une chanson syrienne traditionnelle que chantonne votre personnage. Cigarettes After Sex, Barbara, Charles Aznavour, Saba Fakhri. Qu'est-ce que vous voulez choisir pour qu'on écoute
Saba Fakhri, on y va.
Quel titre en particulier ?
Peu importe, j'adore tout ce qu'il a chanté, Saba Fakhri, parce que c'est à travers sa voix, j'entends Alep, j'entends Palmyre, j'entends les traditions syriennes, j'entends une grande civilisation très ancienne.
Alors on l'écoute. Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui d'Omar Youssef Souleymane qui vient de publier L'Arabe qui sourit aux éditions Flammarion. Un roman, on l'a dit en première partie, qui met en scène le retour d'un Syrien exilé en France vers son pays natal pour accompagner la dépouille de son ami décédé. Une fiction qui s'inspire en partie de l'expérience de mon invité et peut-être l'une de ses particularités, le sourire. En effet, que vous avez tous les deux, personnages et auteurs, d'où vient-il ce sourire ?
Je pense que la meilleure façon de résister face à la sauvagerie, face à la dictature, c'est d'être lucide, être fluide et ne prendre pas parfois les choses au sérieux. Et cela fait partie essentielle de ma personnalité. C'est-à-dire, quand on est toujours sérieux, quand on est toujours sociaux, quand on est toujours... Cela n'emmène nulle part. J'aime bien certains arbres qui, quand il y a un vent très très fort, ils s'en battent toujours debout. Vous voyez, ils essayent de bouger pour rester vivants. Et je pense que c'est une manière de résister aussi. Et rien ne dérange un dictateur comme être heureux. Vous voyez, comme garder son humour, comme garder sa légèreté, garder son sourire. Ils ne comprennent pas ses langages. Et il y a d'autres raisons, ça vient d'où, c'est que depuis quand j'étais petit, et ça c'est aussi le cas de personnages, de parfumeurs, le narrateur, en fait, il sourit inconsciemment pour qu'on ne voit pas trop ses yeux, parce qu'il a un problème aux yeux, et donc il veut tourner le regard des autres envers son sourire. Donc même dans les catastrophes, et face aux problèmes les plus graves, il est toujours souriant. Donc on peut sourire face à l'enfer, et de cette manière, on peut peut-être... si on va pas au paradis, mais au moins on sourit, quoi. Vous voyez. Donc moi, je préfère sourire face à l'enfer à la place de pleurer, parce que ça ne sert à rien de pleurer. Oui. Voilà, d'ailleurs, il y a rire plus que grave, si je ne me trompe pas, puisque c'est une chanson.
Oui, d'Alain Chanfort.
Alors voilà, plus que grave, j'adore.
Sourire plus que grave.
C'est ça, voilà. Sourire plus que grave, voilà.
Alors, le sourire, en même temps, vous dites qu'il est suspect dans la religion de l'islam. C'est vrai ?
Malheureusement, parce qu'en fait, la joie, je dirais, pas seulement le sourire, la joie dans la religion, c'est pas désirable, parce qu'on est traité, quand on est joyeux ou quand on est souriant, comme des gens non profonds, oui, et non virils plutôt, surtout les hommes. Donc, un homme qui rit, un homme joyeux, c'est pas trop cool, non, il faut rester. Ça, c'est lié à la religion et à la misogynie. Et d'ailleurs, la religion, c'est le synonyme de la misogynie, pas que l'islam. Hein, oui. Et du coup, en tant qu'homme, avec des grandes moustaches, il faut avoir des grandes moustaches et aussi, il faut, il faut rester sérieux. Je trouve que c'est ridicule, n'importe quoi. J'ai grandi dans cette ambiance, oui, qu'on devait rester tout le temps sérieux, on criait, avoir des grandes moustaches pour être des vrais hommes. Et je déteste tout ceci, oui.
Donc, c'est à la fois un titre métaphorique pour dire la résistance et pour déconstruire aussi tous les stéréotypes autour de la virilité.
Exactement. Et les genres, en fait, la question de genre aussi au Proche-Orient, ça m'intéresse beaucoup.
Oui, mais... c'est ce qu'on voit d'ailleurs à travers votre personnage de Delia, qui est cette Européenne qui a du mal à vivre selon ses codes européens. Et on sent que... elle est dans un contexte où les droits des femmes sont vraiment mis à mal.
Violés, les droits des femmes. Il n'y a pas de droits des femmes. C'est horrible. Quand, par exemple, une femme habite toute seule en Syrie ou au Liban, on la traite comme soit une prostituée. Oui. Elle est très maltraitée. Quand on voit les mineurs sont obligés à être mariés aujourd'hui, quand les femmes sont tuées ou frappées car ils fréquentent un homme sans mariage, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur les droits des femmes au Proche-Orient. Alors pour Delia, vu qu'elle vient de l'Italie, d'ailleurs j'aime beaucoup ces gens venant de l'Europe, ils sont amoureux du Proche-Orient. Il y a une sorte de fascination envers Damas, envers Beyrouth, parce que je ne sais pas ce qui les attire en fait. Peut-être c'est la nature, la légèreté, peut-être les relations humaines chaleureuses. Et c'était le cas de Delia, et surtout qu'elle vient de la Sicile. Et il y a, la Sicile est proche, oui, quand on va par exemple à Palerme. Bon, j'adore cette ville parce qu'elle m'a fait tellement penser au Proche-Orient, mais c'est un autre monde. C'est presque les mêmes paysages, les mêmes relations humaines simples, et on est aussi à la Méditerranée. Le même météo d'ailleurs. Et donc Delia, elle trouve ou elle retrouve sa ville natale qu'elle adore au Proche-Orient, or elle n'est pas avec sa famille. Cela lui donne une liberté. Et vu qu'elle est têtue, et tant mieux, elle insiste pour vivre seule au Liban. Et ça, c'est ça ce qui l'intéresse, en fait, ce qui l'intéresse le parfumeur chez elle. C'est-à-dire, il est tombé amoureux peut-être à ses idées. Et ce que je voulais aussi adresser à travers cette relation très sensuelle entre les deux, c'est que Delia est une photographe. Elle est intéressée par le parfumeur plutôt par sa chair, par son corps, par... vous voyez, c'est la photographe, vraiment la nudité de l'homme. Et de cette manière, j'ai valorisé le corps de l'homme, qu'il est opprimé en général, ou souvent, hein, pas toujours dans la littérature. Et souvent, on regarde les femmes en tant qu'objet, en tant que corps. Mais non, dans ce roman, c'est l'inverse. Vous voyez. Elle est intéressée par son corps, lui, il est trop excité par ses idées, par ses rires, par sa légèreté, par son humour, voilà, et par son intelligence.
Alors, la question du regard, elle est en effet importante, puisque comme vous venez de le rappeler, vous et votre protagoniste, d'une certaine façon, vous voyez double suite à cet œil qui a été abîmé pendant votre petite enfance. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas aussi la métaphore de votre double appartenance aujourd'hui à la France et à la Syrie ?
Oui, j'adore cette question. Vous avez raison. C'est marrant parce qu'en fait, quand on voit double, premièrement, c'est mon cas depuis quand j'avais 3 ans. Et donc, c'est vraiment difficile. D'ailleurs, je ne peux pas pratiquer n'importe quel métier. Je dois bouger lentement pour ne pas casser des choses, etc. Et donc, auparavant, oui. En fait, c'était un reflet d'un sort de schizophrénie qu'on vit une fois exilé. On ne trouve pas l'équilibre entre la personne qui est en train de grandir ici et la personne qu'on a quittée là-bas, son passé, je veux dire. Mais depuis quand le régime Assad est tombé, c'était incroyable, comme si mes deux côtés sont unis, sont de plus en plus unis. Quand je suis rentré en Syrie, je suis rentré en tant que Français, par exemple. Vous voyez, j'avais mes papiers français, je n'ai pas de papiers syriens. J'entre en Syrie et là, il y avait un dialogue entre le Syrien et le Français que je suis. Et je dis toujours qu'aujourd'hui, j'ai une seule identité, celle de la France universaliste, de la France des valeurs, la France de Lumière, la France de Descartes, la France de Paul et Loire. C'est comme ça que j'ai vécu en Syrie. Et c'était très dur, en fait, de rentrer et de revoir une société. Effectivement, il y a une société écrasée sur le plan économique et horrible, mais aussi la religion qui s'impose sur le quotidien. Par exemple, quand on voit aujourd'hui une femme et un homme, si cette femme n'est pas sa femme ou sa mère, sa sœur ou sa fille, elles peuvent avoir un problème. Donc on n'était pas comme ça en fait en Syrie. Donc il y a de plus en plus de censure. Par exemple, blasphémer. Auparavant, on pouvait blasphémer dans les rues de Damas. Aujourd'hui, il y a une nouvelle loi. Quand je suis rentré, j'ai blasphémé, j'étais entouré des jeunes, ils avaient tellement peur, ils m'ont dit ne fais jamais ça parce qu'il y a une nouvelle loi, qu'on sera emprisonné pendant 1 an si on blasphème. Et moi je trouve que c'est triste, et c'est ridicule. C'est-à-dire, toujours quand la religion ou les islamistes arrivent au pouvoir, ils se concentrent sur des détails, sur des choses qui n'ont aucun intérêt, ils abandonnent l'essentiel, c'est-à-dire ils ne sont pas en train de construire un pays détruit par le régime d'Assad. 60% de la Syrie est détruite, vous imaginez. Ils ne sont pas en train de broquer, c'est le plan économique. Ils ne sont pas en train d'imposer, par exemple, une démocratie, une constitution. Non, ils suivent qui marche avec qui parle de quoi, etc. Mais c'est n'importe quoi. Je trouve que c'est tellement dur pour un pays comme la Syrie qu'elle a vraiment une grande histoire.
Alors, arrêtons-nous un instant sur tout ce que vous venez de nous dire, parce que donc, vous êtes rentré en Syrie en janvier 2025, après 12 ans, 13 ans d'absence. Vous avez retrouvé là-bas, j'imagine, une partie de votre famille. Vous avez retrouvé les lieux où vous avez grandi. Et en même temps, ce que j'entends de ce que vous nous dites, vous avez été déçu, c'est ça ?
Oui, j'étais déçu de... En fait, je me suis préparé d'être déçu, où j'avais peur aussi de ce que je vais voir sur le plan urbanique. C'est bien difficile, en fait, de rentrer dans son quartier d'enfance et trouver tout est ruiné. Or, ce qu'il m'a rendu déçu, c'est 2 choses. C'est le pouvoir actuel. C'était un beau prévu, si vous voulez, parce qu'on ne pouvait pas attendre autre chose de la part d'un ancien djihadiste d'Al-Qaïda comme Ahmad Sharah. Mais pas à ce point, vous voyez, qu'il s'impose sur la vie quotidienne des gens, parce que les Syriens sont déjà trop fatigués. Donc j'étais déçu et je pense que les islamistes, il faut toujours les encadrer. Il faut toujours vivre un peu dans la pression, vous voyez. Et c'est ça la vie politique. C'est-à-dire qu'on a besoin en Syrie d'une opposition très forte. Je ne suis pas contre qu'elle reste au pouvoir à une condition que la population les choisisse, premièrement. Et deuxièmement, avoir une opposition qui crée un débat vivant dans le pays pour qu'on va à la démocratie à l'avenir. Or, il n'y a pas d'initiative pour l'instant, ni de leur part, ni de la part des syndicats en Syrie.
Une déception, peut-être parce qu'il faut du temps et peut-être parce que la libération viendra aussi par la spiritualité. En tout cas, c'est ce que préconise votre roman, en remettant à l'honneur un penseur du XIVe siècle. Alors, je vais vous laisser prononcer son nom afin de ne pas l'écorcher moi-même.
Non, Ibn Khaldoun.
Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce sociologue, ce philosophe qui vous touche aujourd'hui ?
J'ai toujours pensé à quel point c'est triste au Proche-Orient de traiter des exemples guerriers pendant l'histoire comme des exemples, comme des héros pour nos enfants au Proche-Orient. comme Khaled ibn al-Walid, c'était un compagnon de Mahomet, comme Saladin, par exemple. Il faut mettre ces exemples. Par exemple, nous, on a grandi comme quoi, quand nous voulions être comme Saladin. Or, Saladin, c'était un guerrier. Et en même temps, au Proche-Orient, on a des exemples magnifiques, comme Averroès, comme Avicenne, comme Ibn Khaldoun, etc. Ibn Arabi, Al-Hallaj, des grands poètes, des grandes figures de la paix, de la philosophie, de la sociologie. Vous voyez, Ibn Khaldoun, jusqu'à aujourd'hui, on enseigne Al-Muqaddima, ce livre-ci, à la Sorbonne. Mais c'est incroyable. Et pourquoi pas au Proche-Orient? Il vient du Proche-Orient. Et je pense, une fois qu'on traite ces exemples éveillés et brillants de notre histoire au Proche-Orient, on peut trouver une solution pour nos enfants, oui, pour une nouvelle génération qui grandit dans la science, dans la conscience, en faisant le lien en appartenant à une grande civilisation perdue du Proche-Orient, et loin de la religion, et loin des guerres et des conflits.
Et c'est vrai que votre écriture, Omar Youssef Souleymane, est profondément aussi un appel à la paix, à la réconciliation entre les peuples, comme en témoigne un passage à la fin. Est-ce que vous auriez la gentillesse de nous lire cet extrait qui donne tout son sens aussi à votre roman ?
Avec plaisir. Je sens les effluves propres aux adieux, mélange de sel et de chaleur, mais aussi le parfum du romarin descendant depuis la colline. J'imagine le visage de Naji se déployant entre la terre et le ciel. Un espoir unique éclate dans son regard. Il me parle, comme avant, de ses plans de lutter contre l'impérialisme. Et moi, je lui réponds. Ce qui nous tue ici sont les violents, sont les violeurs des femmes en Iran, les tueurs de Samuel Paty en France, les bandits de Boko Haram en Afrique, les balles tirées contre les révoltés à Damas, au Caire, à Tunis, sont celles qui ont lacéré le cœur des manifestants en Afghanistan. Ce dont on a vraiment besoin, c'est une révolution contre l'intégrisme, le totalitarisme et les assassins de la liberté d'expression. On s'en sortira une fois qu'on aura renoué avec le meilleur de notre histoire. Quand les grands criminels ne seront plus offerts en exemple à nos enfants, quand nous préférons Averroès à Saladin, Avicenne à Baybars et Ibn Khaldoun à Harun al-Rashid. Une fois que nous serons tous persuadés que la propagande ne sert que les dictateurs, ils se valent tous, mais nous aussi, les passionnés de la vie, on est semblables. Le combat entre eux et nous continuera. On ne sait pas jusqu'à quand. Peut-être n'y aura-t-il pas de gagnants ni de perdants. Ce qui compte, c'est de continuer pour incruster des traces de lumière sur ce chemin d'épines. Il est bouleversant, comme ce pèlerinage d'adieu, délicat, comme cette aube enveloppant la forêt, puissant, comme les pépiments des oiseaux volant dans l'éternité.
Merci beaucoup. Et toute dernière question, Omar Youssef Souleymane, où est-ce que vous aimeriez être enterré, vous ?
Question très difficile. Nulle part.
Peut-être dans la mer ?
Oui, c'est possible. Pourquoi pas ? Ou dans un fleuve qui va m'emmener quelque part. Comme ça, je reste en train de bouger dans l'éternité, ou sans fin.
C'est noté. Merci beaucoup, Omar Youssef Souleymane. Je rappelle le titre de ce nouveau roman, L'Arabe qui sourit, et qui est apparu aux éditions Flammarion.
Merci.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Alexandre Cayuela. Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.